Les hommes et les femmes, mode d'emploi, Roselyne Fayard.
Ethnobotaniste, docteur en sciences, François Couplan est spécialisé dans l'utilisation traditionnelle des plantes sauvages qu'il a étudiées au cours de ses voyages à travers les 5 continents. Mais ce qu'il caractérise au-delà de sa formation scientifique, c'est son expérience profonde de la vie en harmonie avec la nature. Il est l'auteur d'une 40aine d'ouvrages. Il a créé, il y a 20 ans à peu près, l'Institut de recherche sur les propriétés de la flore. Plus récemment, une école de formation professionnelle pour devenir ethnobotaniste. Et François Couplan, c'est d'abord l'homme de la cuisine sauvage. En tout cas, c'est ainsi que l'on retient son engagement. Il vient de ressortir cet ouvrage qui porte ce titre, La cuisine sauvage, sorti aux éditions Le sang de la terre. Et puis nous parlerons aussi, bien sûr, de cette formation. Il démarrera une nouvelle formation en septembre à Lyon. Voilà, à la technique, c'est Christian Morero. Karine Vuillamou a choisi les musiques qui nous accompagnent. Bonjour à tous. Bonjour François Couplan.
Bonjour Roselyne.
Ravie de vous retrouver.
Oh, ça me fait plaisir aussi.
Juste avant, je vous attrape avant que vous partiez sur les montagnes pour des stages d'initiation, de survie. Qu'est-ce qui est au programme de cet été?
Oui, des stages de gastronomie sauvage, des stages de survie douce. Ça fait 35 ans que je fais ça.
Et ça continue.
J'arrête pas de m'amuser quand même.
C'est toujours plein. Le public a-t-il changé, les gens qui viennent? Parce qu'on peut imaginer, oui. Les gens qui s'inscrivent chez Couplan, oui. C'est des originaux.
C'est des originaux, oui, je le pense bien. Je manque peut-être de points de comparaison, remarquez, parce que je vois beaucoup d'originaux autour de moi, en fait. Mais oui, je pense que les gens changent en ce qu'ils ont de plus en plus une conscience aiguë de ce qui se passe autour d'eux, et qu'ils ont envie de bouger, d'être actifs, et qu'ils s'intéressent vraiment aux plantes, à la nature, à la vie, aux relations entre personnes. Mmh. Et donc, ça veut dire que quand on se retrouve tous ensemble à rencontrer les plantes, à récolter, à cuisiner ensemble, à partir pendant quelques jours dans la nature, ce qui se passe, c'est vraiment très beau, c'est vraiment bien.
Mais ce que je voulais dire, François Couplan, c'est y a-t-il une évolution dans le type de personnes qui viennent? C'est-à-dire, est-ce que ça concerne toutes les couches de la société?
Socialement, vous voulez dire?
Oui, c'est ça.
Non.
Non?
Non. Non, non, socialement, comment est-ce qu'on peut dire ça? Socio-professionnellement, on dit
oui,
ça.
Voilà. Hein,
beaucoup d'enseignants, beaucoup de paramédicaux, beaucoup de parents, beaucoup d'employés en tout genre. Un petit peu, je dirais, moyenne.
Ouais.
Un peu tout sauf les extrêmes. Bah, le point commun, le dénominateur commun sont des gens qui aiment la nature. Seulement, évidemment, il faut définir ce que c'est qu'aimer la nature. Il faut commencer par définir ce que c'est que la nature.
Alors justement, est-ce que vous disiez les gens semblent plus conscients du rapport et de notre dépendance, pour finir? Parce que c'est ça, c'était le thème notamment de votre livre « La nature nous sauvera ».
Oui, je ne sais pas si on peut parler de dépendance.
Moi, d'interdépendance.
De relation. Pour moi, le terme fondamental, c'est relation.
D'ailleurs, on n'aime pas cette notion de dépendance, vous avez raison.
Ben, on en est dépendant, bien évidemment. Mmh. Et je ne pense pas qu'on puisse dire de façon brute que la nature est dépendante de nous. Si l'espèce humaine disparaissait, la nature continuerait, mais ça serait pas la même chose. Et notre rôle à nous, être humains, est fondamental et il faut en avoir conscience et agir en conscience.
Mais en même temps, l'homme inflige à la nature des blessures quasi irrécupérables.
Oui, à lui-même aussi, oui.
À lui-même, oui.
C'est un peu le propre de l'être humain que de blesser.
Là, il y a une conscience qui a changé. C'est-à-dire, on voit dans les médias, on écoute des magazines, ou on peut lire des réflexions vraiment profondes maintenant sur cette prise de conscience. La nature est forte et on ne va pas pouvoir continuer à faire n'importe quoi.
Oui, à condition, enfin je veux dire, les réflexions peuvent être fortes, mais à mon avis, elles s'ancreront dans le concret, dans le réel, que si on a une véritable relation avec la nature, soi-même en tant qu'individu, je reviens à ça. Et ça, c'est essentiel. Et ça, c'est encore très rare dans notre société.
Et alors, c'est quoi,
malgré les belles déclarations d'intention.
Mais c'est quoi une relation authentique avec la nature? Ça se voit à quoi?
Ah ben... C'est sortir de chez soi, observer, regarder la petite plante qui est en train de pousser entre deux pavés ou bien l'égopode qui est en train d'envahir votre jardin, de se baisser pour l'observer, de tendre sa main pour toucher la plante, sentir comme elle est douce ou bien au contraire comme elle est velue, comme elle est laineuse. La prendre entre ses doigts, la froisser délicatement, sentir le parfum ou bien le manque de parfum ou bien attendre un petit peu pour que se développe son arôme. Si on sait qu'elle n'est pas toxique, la goûter, voir ce qui se passe. C'est ça la relation.
C'est comme une relation amoureuse que vous racontez.
Mais si la vie n'est pas amour, c'est pas de la vie. La vie est amour. Et effectivement, c'est une relation amoureuse qui se passe avec la plante, mais une relation amoureuse particulière dans la mesure où cet individu qu'on a en face de nous, on peut très bien, et on doit même dans une certaine mesure, je pense j'aimerais revenir là-dessus, on peut le récolter, le cuisiner, le consommer tel quel, en faire des préparations absolument extraordinaires qui vont vous faire sauter les papiers au plafond et étonner les amis que vous allez inviter. Donc c'est une amie qui nous donne la vie, et elle est faite pour ça, et on est fait pour recevoir cette vie. Et puis c'est une amie qui va nous emmener mais dans toutes les directions qu'on veut, dans toutes les directions, que ce soit pour réfléchir sur notre état de santé, pour nous soigner quand on est malade, nous poser la question mais pourquoi est-ce que je suis malade, qu'est-ce que c'est que la maladie et comment est-ce que cet être qui est en face de nous peut contribuer à rétablir notre santé. C'est une amie qui va nous emmener à travers l'histoire, nous faire remonter les siècles et les millénaires, puisque c'est l'aliment de base de l'être humain qu'on a oublié de plus en plus systématiquement depuis le néolithique, depuis qu'on s'est mis à cultiver et qui s'est passé des tas de choses dont on n'est encore absolument pas conscient. C'est une amie qui va nous emmener vers la recherche du sens de la vie.
Et François Couplan, je ne suis pas sûr qu'on voit vraiment la nature comme une amie, même si on s'y promène le dimanche.
Ah ben voilà.
On a perdu ce... Ben voilà. Et quand on dit la nature est dangereuse, la nature est plus forte que nous, la nature nous détruira, si on la tient
la
pas,
maîtrise pas,
voilà, cherchez le mot, si on ne la maîtrise pas, ça ce ne sont pas des rapports d'amitié quand on parle comme ça. Je prétends pas, je ne dis pas qu'on a des intentions belliqueuses, mais on a juste peur.
Eh ben oui.
Pourquoi est-ce qu'on a si peur?
Ben si on a peur, on ne peut pas aimer.
Oui, c'est vrai. Bah, là où il y a la peur, il n'y a pas l'amour, on dit.
Bah oui, exactement. Pourquoi est-ce qu'il y a la peur? Parce qu'il n'y a pas la connaissance. Pourquoi est-ce qu'il y a la connaissance? Parce qu'on s'en est séparé. Pourquoi est-ce qu'on s'en est séparé? À mon avis, peut-être qu'on aura le temps d'en parler un petit peu, parce que ça nous emmènerait loin. Mais à mon avis, c'est dans cette direction qu'il faut creuser. Pour moi, il y a une raison, entre guillemets, à tout ça. Je veux dire, c'est un processus que j'observe et qui fait beaucoup de sens pour moi.
Pourquoi? Mais... pourquoi est-ce qu'on est séparé de la nature?
J'y reviendrai après. Mais je voudrais, bon. je voudrais juste répondre à votre première question. Qu'est-ce qui fait qu'on ait peur? Qu'est-ce qui a causé cette séparation? Moi, il y a, j'en ai dit deux mots tout à l'heure, la grande fracture néolithique, si l'on peut dire, c'est-à-dire à partir du moment où l'homme a eu envie, parce que je pense pas que c'était pour répondre à de véritables besoins, mais il a eu envie de cultiver sa nourriture.
D'arrêter de errer.
C'est un peut-être, peu ça, oui.
De se poser.
Peut-être, est-ce que c'est... Oui, enfin, c'est certainement... Sur ces premiers termes, la sédentarisation fait certainement partie des prémices de l'agriculture. Mais toujours est-il que, il faut bien comprendre que c'est un processus qui nous a progressivement éloignés de la nature. Je ne dis pas que ce soit bien ou mal, on en parlera de ça. Mais en tout cas, c'est comme ça, à partir du moment où on se sédentarise, à partir du moment où on cultive une partie de sa nourriture, on se met à considérer la nature comme étant une ennemie, dans la mesure où, enfin en tout cas dans la logique du champ de céréales, je dirais, ou bien du jardin de plantes annuelles, on a des végétaux qui viennent tout seuls et qu'on appelle des mauvaises herbes.
Oui. Et à ce moment-là, on a de cesse de vouloir éliminer.
Ben voilà. Et donc, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on commence par les arracher. Après ça, on invente des produits qui vont les détruire. On a créé la pollution. Et puis d'autre part, il y a des incidences absolument énormes dans la mesure où la nourriture qu'on produit, on va la stocker. Donc toujours dans la logique du champ de céréales, hein, les glucides qui sont nécessaires à notre vie et qu'on va produire, on va pouvoir les stocker facilement. Donc ça va donner envie à d'autres personnes de venir chercher ce que nous avons produit.
Et on mettra des fils barbelés autour et c'est comme ça que...
Oui, et puis pendant la nuit, ils les couperont, ils arrivent, ils vous assomment, ils volent vos récoltes,
tout ça,
votre femme et vos enfants.
Donc votre regard sur notre façon de vivre est totalement négatif. Vous en tirez des conclusions négatives?
En quoi est-ce que c'est négatif?
Je sais pas, vous dites on s'est coupé de la nature, certes, ça on peut l'observer. Mais vous êtes en train de montrer du coup les choix qu'on a faits, sont-ils tous négatifs? Il y avait peut-être des intentions positives au fait de se sédentariser.
Ah mais certainement, mais attention, positif, négatif, moi ce sont des termes qui ne me parlent pas vraiment très bien.
Alors qu'est-ce qui vous parle à vous?
Comme je disais, je pense que ce sont des choix qu'il fallait faire pour favoriser le développement de notre conscience, parce que on ne prend conscience de ce qui se passe que ça c'est un petit peu le propre de l'être humain, on s'en rend compte qu'en se séparant et qu'en faisant l'expérience de la difficulté voire de la douleur. Donc oui, moi je pense que c'était nécessaire, enfin en tout cas plus on prend conscience, plus on se rend compte que d'une part on a des choix et que d'autre part ces choix entraînent des responsabilités, les choix que nous avons faits bien avant le néolithique déjà, mais en particulier au néolithique et après par la suite, ça a été toute une suite de choix qui nous a amené à la situation dans laquelle on se trouve maintenant, qui est une situation qui, à la fois pour reprendre vos termes, est négative dans la mesure où il y a beaucoup d'inégalités, où il y a énormément de douleurs, où il y a, enfin on connaît, je ne vais pas faire la liste.
Tous les gens qui pensent que la nature ne peut pas les nourrir et qui meurent de faim.
Par exemple, oui, absolument. Mais où d'un autre côté, il y a de plus en plus de conscience de nos choix, de nos responsabilités et de ce qu'il faut faire pour que les choses avancent, on ne fait pas d'omelette sans casser deux.
François Couplan, on va écouter une chanson. Je rappelle que vous venez de publier, il vient de ressortir en fait,
oui,
ce livre.
Oui, oui, mais complètement différent, ça n'a rien à voir.
Complètement différent, voilà. La cuisine sauvage, accommoder 1000 plantes oubliées. On parlera évidemment de cette cuisine sauvage. Je reçois François Couplan cet après-midi.
Te souviens-tu du pays des oiseaux? Tu sais celui où il fait toujours beau, tandis qu'il n'existe plus. Tandis qu'il a disparu. Et dans mes songes, je gravis des montagnes. À l'horizon, les rivières s'éloignent. Ils ont tué les oiseaux. Plus rien ne bouge, il fait chaud. Les orages ont balayé la plage. Il ne reste plus qu'un pays d'un visage, il avait quelque chose de toi, mais il est mort, il est froid. Du bout des doigts, je caresse la vase. Dieu qu'il était émouvant ce mirage. J'ai entendu le cri du vent et j'ai pleuré doucement. De sable qui périt sous la vague. Tout se casse, dis-moi ce qu'il se passe. Je le trouvais si beau, notre pays là-haut. toi quand je m'endors. Il est fini le temps des rivières d'or où tu disais mon trésor. Il faudra vivre sans toi. Les orages ont balayé la plage. Il ne reste plus qu'un pays sauvage. Sauvage. Oh, les orages ont balayé la plage. Il ne reste plus qu'un pays sauvage. Sauvage.
François Couplan, j'aimerais qu'on aille un petit peu plus loin. Vous dites dans le début de La cuisine sauvage, vous faites...
Oui.
Vous faites un retour en arrière sur, au fond, comment est-ce qu'on a fini par sélectionner très peu de plantes, hein,
oui,
dans tout ce qui est possible. Et quand on regarde les chiffres, c'est assez impressionnant. On utilise, mais nous on utilise, attendez voir, 600 sortes de légumes, mais pas nous d'ailleurs.
600, hein. Ah oui, mais ça c'est à travers le monde.
À travers le monde, oui.
C'est à travers le monde, parce que nous c'est plutôt une trentaine. Hein.
Voilà, c'est ça, vous dites 30 qui représentent, ouais, 90% de notre alimentation,
ouais,
ici. C'est impressionnant. Alors qu'il existe combien de plantes possibles à, quoi, 80 000 plantes,
bah,
sauf...
Oui, enfin, à travers le monde, je pense que dire 80 000 plantes, bon, c'est à la louche. Hein, tout
oui,
ça.
Bien sûr, oui, j'imagine.
Je ne les ai pas comptées une à une.
Vous passez beaucoup
bien
de temps, mais vous ne les comptez pas une à
bien,
une.
Bah oui, bien que je passe ma vie à les recenser, oui, j'espère que j'aurai déjà bien débroussaillé, entre guillemets, la question avant de mourir. Mais je peux donner des chiffres plus précis sur l'Europe ou sur un total de, oui, 12 000 espèces. Moi, j'ai recensé 1 600 espèces. Ça fait un petit peu plus de 10-12%.
Oui.
C'est loin d'être énorme par rapport à tout ce qui existe. Mais c'est quand même infiniment plus que nos 30 légumes qui ne sont même pas du quotidien, quoi.
Oui.
C'est absolument époustouflant. Et... de l'expérimentation, la recherche, l'exploration est toujours là pour nous, là de beaux jours.
Alors comment se fait-il qu'en effet cette sélection, elle s'est faite tout doucement ?
Alors, comme je disais, on a commencé par cultiver des plantes riches en glucides.
Oui, très nutritives sur le plan de l'énergie.
Voilà, exactement. C'est de l'énergie concentrée.
Mmh.
Dans les pays tropicaux, ce sont plutôt des ignames et on a choisi le modèle de l'agroforesterie qui est proche proche du modèle des forêts, donc sans avoir besoin de lutter trop fort contre la nature, en fait, en allant plutôt avec. En revanche, dans le croissant fertile, c'est-à-dire au Moyen-Orient, et c'est ce qui est à la base de notre civilisation, et en particulier de notre alimentation, de notre agriculture, on a fait le choix de cultiver des céréales et des légumineuses. Là, ce sont des plantes annuelles qui donnent des petits grains, des petits